Chapitre 11. 22 juillet. Il est 2 heures. J'arrive chez Sylvestre pour lui raconter le grand événement d'hier. Nous nous asseyons sur le vieux canapé à housse, dans l'ombre du rideau mobile qui partage l'atelier et y fait comme une seconde salle, au milieu des mannequins, des bustes, des bouteilles de vernis et des boîtes à couleurs. Lampron aime ce clair-obscur qui lui repose la vue. Quelqu'un frappe. « Reste, me dit Sylvestre, c'est un praticien qui vient pour un fond de gravure. 2 minutes et je suis à toi. Entrez. » Il achève en même temps de tirer le rideau sur moi et, à travers l'étoffe mince, je le vois s'avancer vers la porte qui vient de s'ouvrir. « Monsieur Lampron ?»«
C'est moi, monsieur. »«
Vous ne me reconnaissez pas, monsieur ?»«
Non, monsieur. »«
Cela m'étonne, monsieur. »
« Et pourquoi, monsieur, si je ne vous ai jamais vu ?»«
Vous avez fait mon portrait. »«
Ah, par exemple !»
J'observe Lampron. Il est blessé de l'impertinence de ce début. Il laisse au milieu de l'atelier la chaise qu'il avançait déjà et va s'asseoir sur son escabeau de graveur, dans l'angle, un peu hautain, un vague sourire de défi errant dans sa barbe. Du bout des doigts, il martèle la table où son coude s'appuie.
« Ce que j'ai l'honneur de vous dire est la pure vérité, monsieur. Je suis monsieur Charnot de l'Institut. »
Lampron regarde de mon côté et sa physionomie se détend.
« Pardonnez-moi, monsieur, je ne vous connais que de dos. De ce côté-là, je vous aurais peut-être reconnu. »
« Je ne ris pas, moi, monsieur, et je serais venu plus tôt vous demander une explication si je n'avais appris ce matin seulement ce que je considère comme un abus déplorable de votre crayon. » Mais les expositions de peinture ne sont pas mon fait. Je ne m'y suis pas vu. Il a fallu que Flammarant vienne m'avertir que je figurais au dernier salon, en compagnie de ma fille, que vous m'aviez assis sur un tronc d'arbre dans la forêt de Saint-Germain.
Est-ce vrai, cela, monsieur, sur un tronc d'arbre ?
Parfaitement. La pose est un peu rustique pour un homme qui ne quitte pas Paris 3 fois par an. Et ma fille, de profil, à ce qu'il paraît, très ressemblante.
Autant que je l'ai pu faire.
Alors, vous avouez, vous nous avez bien dessinés tous deux, ma fille et moi ?
Oui, monsieur.
Il ne sera peut-être pas aussi facile d'expliquer de quel droit, monsieur. J'attends vos explications.
Je pourrais bien ne rien vous expliquer du tout, reprend Lampron qui commence à perdre patience.
Je pourrais aussi vous répondre que je n'avais pas plus de permission à vous demander que je n'avais à en demander aux hêtres, aux chênes, aux ormes et aux bouleaux, que vous faisiez partie du paysage, que tout peintre qui dessine un sous-bois a le droit d'y piquer un bonhomme.
Bonhomme, monsieur, bonhomme, vous ne vous gênez pas.
Je veux dire un personnage. Nous disons bonhomme, nous autres.
« Oui, monsieur, je pourrais vous payer de cette raison très suffisante, mais qui n'est pas la véritable. J'aime mieux vous déclarer très franchement ce qui s'est passé. Vous avez une fille charmante, monsieur. »
Par habitude, monsieur Charnot s'inclina.
Un de mes amis s'était pris d'elle. Il est timide et n'osait avouer son amour. Nous vous avons par hasard rencontré dans le bois et une idée m'est venue alors. Celle de dessiner Mademoiselle Jeanne, de la faire si ressemblante qu'elle ne pût s'y méprendre, d'exposer mon croquis, sûre qu'elle le verrait, qu'elle devinerait l'intention, et que son souvenir la reporterait, non vers moi, dont la jeunesse est fanée, mais vers un jeune ami qui a l'âge et la tournure d'un amoureux. S'il y a une faute, monsieur, je la revendique, elle est toute à moi.
Certainement, monsieur, il y en a une, tout au moins de votre part, celle d'avoir, vous, un homme sérieux, considéré pour votre talent et votre caractère, aidé, encouragé un sentiment frivole.
L'amour le plus honnête et le plus vrai, monsieur.
Un feu de paille.
Pas le moins du monde.
Allons donc, votre ami n'est qu'un enfant.
Tant mieux pour lui, monsieur, et pour elle. Si vous voulez pourgendre un homme mûr, essayez, vous verrez ce qu'ils valent et vous regretterez peut-être d'avoir repoussé cet enfant qui n'a que 24 ans, c'est vrai, qui n'a ni beaucoup de fortune, ni carrière arrêtée, ni cette belle suffisance qui tient lieu de mérite à tant de gens, mais qui est un noble et brave cœur, monsieur, dont je réponds comme de moi. Allez, allez, vous trouverez pour votre fille de grands noms, de grosses bourses, des galons, des barbes, des ventres, des réputations, des prétentions justifiées ou non, tout ce qu'il n'a pas. Mais lui, monsieur, lui, vous ne le retrouverez jamais. C'est tout ce que j'ai à vous dire. » L'emprunt s'était animé. Il parlait avec véhémence. Une pointe de colère brillait dans son regard. Je vis M. Charnot se lever, aller vers lui et lui tendre la main. « Je ne voulais pas autre chose de vous, mon cher monsieur. Cela me suffit. Flammarion m'a demandé ce matin même la main de ma fille pour votre ami. Il ne perd pas de temps quand il est chargé d'une commission, Flammarion. Il m'a dit du bien de votre ami, lui aussi, beaucoup de bien. J'ai interrogé Maître Boule. Mais j'avais besoin, quelque flatteur que fussent leurs témoignages, d'en avoir un autre, celui d'un homme qui eût intimement vécu avec M. Mouillard, et je n'ai pu découvrir que vous. » L'emprunt regardait avec stupéfaction ce petit homme aux lèvres minces qui venait si brusquement de changer de ton et de visage. « Ma foi, monsieur, répondit-il, vous auriez pu obtenir des renseignements à moins de frais. Il n'était pas nécessaire de me faire une scène. »« Permettez, j'aurais eu des renseignements et je n'en voulais pas, ils sont toujours bons. Je voulais un cri du cœur, le mot de l'amitié révoltée, poussé à bout. Je l'ai eu, cela me suffit. Je vous remercie, monsieur, et vous prie de m'excuser. » Mais, monsieur, puisque nous parlons sérieusement à présent, permettez-moi de vous poser à mon tour une question. Je n'ai pas l'habitude des périphrases. La demande de mon ami a-t-elle ou non des chances d'être agréée ? Monsieur l'emprunt, dans ces délicates conjonctures, je suis résolu à laisser désormais ma fille entièrement libre. Quoi qu'il s'agisse de mon bonheur presque autant que du sien, je n'aurai que voix consultative. Je lui ai donc communiqué la demande faite par Flammarion. Eh bien, je m'attendais à ce qu'elle la repoussât. Et elle a dit oui. Elle n'a pas dit non, sans quoi vous comprenez bien que je ne serai pas ici. À cette réponse, tout hors de moi, je faillis écarter le rideau et me précipiter dans l'atelier en criant « Merci !» Mais M. Charnot ajouta « Ne vous y méprenez pas cependant. Il y a des objections graves, insurmontables peut-être. J'ai besoin de parler de nouveau à ma fille. Aussitôt que je le pourrai, je préviendrai votre ami de nos résolutions définitives. Au revoir, monsieur !» L'emprunt le reconduisit et j'entendis leurs pas s'éloigner dans le corridor. L'instant d'après, « Eh bien, me dit Sylvestre en revenant vers moi les bras tendus, es-tu heureux ?»« Sans doute, mon ami, un peu. »« Beaucoup, j'espère, elle t'aime. » »« Mais les objections, Sylvestre ?»« Bah, insurmontables peut-être. » »« Mais c'est le sel de toutes nos joies, les objections, mon cher. » Qu'il vous faut de choses à vous autres jeunes gens pour vous dire heureux. Vous demandez des certitudes à la vie comme si elle en avait à vous donner. » Et il s'est mis à discuter mes craintes sans parvenir à les dissiper, car ni lui ni moi, nous ne devinons l'obstacle. 2 août. Après 10 jours d'attente, pendant lesquels j'ai tour à tour employé l'emprunt et M. Flammarion à intercéder pour moi, 10 jours passés entre des angoisses mortelles et des espérances folles, où j'ai formé, détruit, repris, abandonné de nouveau plus de projets que je n'en avais fait dans le reste de ma vie. Hier, à 5 heures, j'ai reçu un mot de M. Charnot qui me priait de me rendre chez lui dans la soirée. J'y suis allé, anéanti. Il m'a reçu dans son cabinet, comme il y a 7 mois, lors de notre première entrevue, mais avec une politesse plus grave, et j'ai vu trembler entre ses doigts le coupe-papier qu'il a pris sur la table en se renversant dans son Voltaire. Je me suis assis dans le même fauteuil où je m'étais senti si malheureux. En vérité, je ne l'étais pas moins hier. M. Charnot s'en aperçut sans doute et voulut me rassurer. « Monsieur, me dit-il, je vous reçois en ami. » « Quoi qu'il puisse résulter de notre entretien, vous pouvez être assuré de ma parfaite estime. Ne craignez donc pas de me répondre librement. » Il me posa plusieurs questions sur ma famille, mes goûts, mes relations à Paris. Puis il voulut que je lui racontasse moi-même les quelques événements bien simples qui ont marqué mon enfance et ma jeunesse, mes souvenirs de la maison paternelle, du collège de la Châtre, de mes vacances à Bourges, de ma vie d'étudiant. Il écouta sans m'interrompre en jouant avec son coupe-papier d'ivoire. Quand je fus arrivé à ce jour de décembre dernier, où pour la première fois Jeanne m'était apparue, « Arrêtons-nous là, dit-il, je sais le reste ou je le devine. Jeune homme, je vous ai promis une réponse, la voici. » Je crois que pendant une minute, je cessai de respirer et que mon cœur cessa de battre. « Ma fille, continua M. Charnot, est en ce moment même l'objet de plusieurs demandes en mariage. Vous voyez que je ne vous cache rien. Je lui ai laissé le temps de réfléchir, elle a tout pesé, tout examiné et m'a fait connaître hier le résultat de ses réflexions. À des parties plus riches, plus brillantes peut-être, elle préfère un honnête homme qui l'aime pour elle-même. Et cet honnête homme, c'est vous, monsieur. « Oh, merci, monsieur, m'écriai-je, merci !» Attendez, il y a deux conditions. Y en eût-il 10, je les accepte d'avance. Ne vous hâtez pas, vous allez voir, l'une vient de ma fille, l'autre de nous deux. Que j'ai une position, peut-être? Non, ce n'est pas cela. Évidemment, mon gendre ne restera pas oisif. J'ai sur ce point des vues que je vous exposerai plus tard s'il y a lieu. Non, la première condition exigée par ma fille et dictée par un sentiment qui m'est très doux, c'est que vous promettiez de ne jamais quitter Paris. Ah, je le jure, monsieur, le plus joyeusement du monde. Vraiment, je craignais que vous n'eussiez des engagements. Aucun. Ou des répugnances. Non, monsieur, rien que des préférences avec la liberté de les suivre. Et la seconde? La seconde, à laquelle nous tenons tous deux, ma fille et moi, c'est que vous fassiez la paix avec votre oncle. Flammarion m'a appris que vous étiez brouillé. En effet, monsieur, j'espère que ce n'est pas grave, un simple nuage, n'est-ce pas? Malheureusement, non. Mon oncle a une nature très absolue. Mais excellente aussi à ce qu'il m'a paru quand je l'ai reçu en juin, je crois. Oui. Vous ne demandez pas mieux que de faire les premiers pas? Je ferai tout ce qu'il faudra. J'en étais sûr. Il ne se peut que vous demeuriez en froid avec le frère de votre père, avec votre dernier parent. Cette réconciliation est à nos yeux une chose nécessaire, un devoir. Vous devez d'ailleurs la désirer autant et plus que nous. Je m'y emploierai de toutes mes forces, monsieur, je vous le promets. Et vous réussirez alors, je vous le garantis. M. Charnot, devenu très pâle, me tendit la main. Il fit effort pour sourire. Je crois, monsieur Fabien, que nous sommes pleinement d'accord et que l'heure est venue. Il n'acheva pas sa phrase, se leva et alla ouvrir une porte entre deux bibliothèques au fond. Jeanne, dit-il, monsieur Fabien accepte les deux conditions, mon enfant. Et je vis Jeanne, souriante, s'avancer vers moi. Et moi, qui m'étais levé tremblant, moi qui, jusque-là, perdais l'esprit à la seule pensée de la voix, moi qui m'étais demandé bien des fois avec épouvante ce que je lui dirais en l'abordant si jamais elle m'était fiancée, je me sentis tout à coup rassuré et les mots se précipitèrent sur mes lèvres pour la remercier, pour exprimer ma joie. Mon bonheur se voyait d'ailleurs et j'aurais pu m'en taire. La première demi-heure, nous causâmes tous trois. Puis M. Charnot recula son fauteuil et nous ne restâmes que deux. Il avait pris un journal, mais je crois bien qu'il le tenait à l'envers. En tout cas, il dut lire entre les lignes, car de toute la soirée, il ne tourna pas la page. Souvent, il regardait, par-dessus la feuille pliée en quatre, du côté où nous étions, et ses yeux se reportaient sur une jolie miniature de Jeanne enfant, pendue au coin de la cheminée. Quelle comparaison, quels souvenirs, quels regrets, quelles espérances luttaient dans son esprit, je l'ignore, mais sa joie était mêlée de gros soupirs, et je crois qu'il eût pleuré si nous n'avions été là. Jeanne se montrait avec moi simple comme une enfant, bonne et sérieuse comme une femme. Un sentiment nouveau grandissait en moi d'instant en instant, celui d'un repos profond de l'âme, la certitude par avance du bonheur de toute ma vie. Oui, j'étais heureux par-delà le présent, jusque dans l'avenir, dans une longue suite de jours passés près d'elle, et tandis qu'elle me parlait tranquille, confiante, joyeuse aussi, je croyais voir les grandes ailes de mon rêve qui se fermaient sur nous deux. Nous causions à voix basse. La fenêtre ouverte laissait entrer l'air tiède du soir et la rumeur confuse de Paris. « Vous m'appelez votre amie et votre conseillère ?» me dit-elle. « Sans doute. Vous m'assurez qu'en toute chose vous prendrez mon avis et que nous agirons d'accord ?»«
Oui.
Si je vous demandais une confidence dès ce soir, vous ne m'en voudriez pas ?»«
Au contraire. »
« Eh bien, d'après ce que vous me racontez de votre oncle, vous me semblez avoir accepté un peu légèrement la deuxième condition, qui est de vous réconcilier avec lui. »«
J'ai seulement promis de m'y employer. »«
Oui, mais mon père entend que vous réussissiez. Comment comptez-vous faire ?»«
Je ne sais pas encore. »«
C'est bien ce que je prévoyais, et je pensais qu'il serait bon peut-être d'y réfléchir à deux. »
« Mademoiselle, je vous écoute. Faites le plan de bataille, je le discuterai. »
Jeanne joignit les mains sur ses genoux et prit un air profond.
« Voyons, si vous lui écriviez. »
« Il y a bien des chances pour qu'il ne réponde pas. »
« Réponse payée. »
« Mademoiselle, vous riez, ce n'est plus un conseil. »
« Oui, soyons sérieux, allez le trouver. »
« L'idée vaut mieux, il me recevra peut-être. »
« Alors, vous le tenez, dès qu'un homme écoute ?»«
Pas lui, mademoiselle, il écoutera, et savez-vous ce qu'il répondra ?»«
Non. »«
Ceci, ou quelque chose d'approchant. Mon neveu, tu viens m'annoncer deux nouvelles, n'est-ce pas, que tu épouses une Parisienne et que tu renonces à tout jamais à l'étude patrimoniale, c'est-à-dire la confirmation, la gravation de notre double ressentiment. » Tu n'as fait qu'un pas de plus en arrière. Ce n'était pas la peine de te déranger pour m'en avertir, et tu peux t'en retourner.
Oh, vous m'étonnez. Il y a un moyen de le prendre, bien sûr, puisqu'il est bon, au fond, vous me l'avez dit. Si je connaissais votre oncle, je ne serais pas longtemps embarrassée.
Si vous le connaissiez, ce serait le moyen, en effet, le meilleur de tous, infaillible. Il s'imagine que vous êtes une Parisienne évaporée, il a peur de vous, c'est de vous aimer qu'il m'en veut, bien plus que de refuser son étude. S'il vous voyait seulement, il aurait bientôt fait la paix avec moi.
Vous croyez ?
J'en suis sûr.
Vous croyez que si je le regardais dans les yeux, comme ceci, et si je lui disais « Monsieur Mouillard, vous ne voulez donc pas que je devienne votre nièce ?» Vous croyez qu'il céderait ?
« Ah, mademoiselle, pourquoi n'est-ce pas possible ?»«
C'est difficile, en effet, mais impossible, je ne sais pas. »
Nous avons exposé, ou plutôt, Jeanne a exposé le cas à M. Charnot, qui est bien décidément la plus ancienne et la plus complète conquête de sa fille. Il s'est d'abord écrié. « C'était là mon affaire, disait-il, une affaire de famille dont il ne devait pas se mêler. » Elle a insisté, elle l'a ébranlé. Elle a proposé hardiment un voyage à Bourges et une visite à M. Mouillard. Les arguments abondaient, un peu faibles parfois, mais toujours si gentiment dits. Un voyage dans le Berry, ce serait délicieux, reposant, nouveau pour tous deux. M. Charnot s'était-il plaint, oui ou non, la veille, du séjour à Paris par ses chaleurs d'août ? Oui, il s'était plaint, et avec raison, car ses collègues, eux, n'hésitaient pas à quitter leurs travaux pour courir la province. Et elle les citait tous, l'un parti pour les Vosges, l'autre pour les Pyrénées, l'autre encore pour Deauville. Et puis, n'y avait-il pas justement, à quelques lieues de Bourges, une de ses vieilles amies du Faubourg Saint-Germain ? Combien de fois l'avait-elle invitée ? Combien de fois avait-il manqué à ses promesses ? On profiterait de la circonstance pour pousser une pointe jusqu'au château. Enfin, comme M. Charnot continuait à se retrancher derrière la singularité du procédé, « Mais au contraire, mon père, en vous présentant chez M. Mouillard, vous remplirez simplement un devoir de politesse. »«
Comment cela, je te prie ?»«
Il vous a fait une visite, eh bien, vous la lui rendez. » M. Charnot a hoché la tête comme un père qui n'est peut-être pas convaincu, mais qui s'avoue vaincu. « Pour moi, Jeanne, je recommence à croire aux fées. » 3 août. Je suis retournée rue de l'Université. Le voyage est décidé, je pars demain pour Bourges, précédant M. et Mlle Charnot, qui arriveront après-demain matin. Ma mission d'éclaireur est double. Retenir des chambres à l'hôtel, confortables, au premier et au midi, puis voir mon oncle et le préparer à la visite qu'il va recevoir. Le préparer et non l'effaroucher. Jeanne m'a tracé le plan de campagne. Je dois me montrer le plus doux des neveux, dût-il être avec moi le plus rugueux des oncles, l'empêcher de revenir sur le passé, être sombre sur le présent, avouer timidement que Mademoiselle Charnot connaît mes sentiments et ne s'y montre pas insensible, mais éviter de préciser et remettre à plus tard une explication complète, une étude en commun de la situation. Monsieur Mouillard ne peut manquer d'être séduit par cette déférence et de laisser ses armes au fourreau jusqu'à ce conseil de famille dont je lui ouvrirai la perspective. Alors, si ses premières avances ont été bien accueillies, j'annoncerai que Monsieur Charnot voyage actuellement dans le Berry et, sans rien affirmer, j'ajouterai qu'il voudra peut-être, en passant par Bourges, rendre à mon oncle sa visite. Mon rôle finit là. Jeanne et Monsieur Charnot feront le reste. C'est avec Jeanne, à la clarté de ses yeux et de son sourire, que M. Mouillard devra étudier la situation. C'est l'argument redoutable de sa jeunesse et de sa grâce qu'il lui faudra combattre. Le pauvre homme ! Jeanne est pleine de confiance. Son père, endoctriné par elle, ne doute pas de la capitulation de mon oncle. Et moi, qui lutte un peu contre cet optimisme, je me trouve aussi, en définitive, du parti de l'espérance. Au moment où je rentrais à la maison, la concierge me remit deux cartes de l'arrivée. La première porte, CH, l'arrivée, principal clerc d'avoué, PPC. La seconde, sur carton d'ivoire, m'annonce, en initiales aussi, une seconde nouvelle. CH, l'arrivée, ancien principal clerc d'avoué, PFPM. Il quitte donc Paris, ce Parisien qui jurait ne pouvoir vivre deux jours en province. Cela devait arriver. Il se marie, cela m'est égal. La conséquence est que nous ne nous verrons plus et je n'en pleurerai pas. Bourges, 3 août. Si vous avez passé par Bourges, vous avez pu voir la petite rue sous les ceps, les cours du Bas d'Argent et de la Fleur de Lys, les rues de la Mère de Dieu, des Vergalans, Mauzecret, du Moulin-le-Roi, le quai Messire Jacques et d'autres dont les noms anciens, conservés par un sentiment ou un instinct louable des traditions, indiquent une vieille ville qui possède encore des gens d'autrefois, je veux dire des gens attachés au terroir, fortement marqués dans leurs mœurs et dans leur langue du cachet provincial, des gens qui savent ce qu'est un nom pour une rue, son honneur, son époux si l'on veut, avec lequel elle ne doit pas divorcer. Mon oncle Mouillard, le plus convaincu, le plus fidèle des Berruyens, habite naturellement une de ces vieilles rues, à l'ombre de la cathédrale, sous la volée de ses cloches, la rue du Four. Un quart d'heure après mon arrivée à Bourges, je tirai la patte de chevreuil qui pend, sans poil, le long de la porte. Et je savais, à n'en pas douter, que mon oncle ne se trouvait pas chez lui. Après l'audience, un de ses clercs apporte les dossiers à l'étude. Lui, lentement, les pans de sa redingote au vent, il s'en va visiter quelques amis, des clients, de respectables dames, ces danseuses vers 1840, ou, plus souvent, se promener sur les bords plantés de peupliers du canal du Berry, où des files de petits ânes gris tirent à la corde des files de grands bateaux. J'étais donc sûr de ne pas le rencontrer. Madeleine vint ouvrir, elle eut un haut-le-corps. « Monsieur Fabien ?» « Oui, Madeleine, moi-même. Mon oncle n'est pas là ?»« Non, monsieur. Est-ce que vraiment monsieur veut entrer ?»« Pourquoi pas ?»« Monsieur est si changé depuis Paris, monsieur Fabien. » Madeleine, immobile, une main relevant son tablier, l'autre pendante, me regardait avec une expression d'inquiétude et de reproche. « Il faut que j'entre, Madeleine. J'ai des confidences à te faire. » Elle ne répondit pas et tourna sur ses talons pour me précéder. Ce n'est pas ainsi que j'étais accueilli autrefois. Quelle différence ! Madeleine venait m'attendre à la gare. Elle m'embrassait, me complimentait sur ma mine, me promettait 1000 sucreries qu'elle avait rêvées pour moi. À peine avais-je mis le pied dans le corridor que mon oncle, renonçant pour moi à sa promenade habituelle, sortait de son cabinet, la cravate en désordre et le cœur aussi de me revoir, moi, pauvre collégien, gauche et ahuri. Temps passé. J'arrive, craignant de rencontrer mon oncle, et Madeleine a peur de m'ouvrir. Elle ne m'en a rien dit, mais je devine que bien des larmes ont dû couler de ses yeux noirs sur ses joues maigres, pâles comme la cire. Quelle figure transparente elle a! On dirait qu'une petite lampe intérieure la baigne de rayons. De fortes énergies couvent d'ailleurs sous ce masque impassible. Madeleine est née à Bayonne, d'un sang espagnol. Elle fut ravissante à 20 ans, dit-on. En vieillissant, elle est devenue sévère d'allure, avec un air de veuve, vraiment veuve, et un cœur de grand-mère. La voilà qui glisse sur ses chaussons, jusque dans ce royaume de paix et de silence, sa cuisine. Je l'y suis. Deux choses ne sont jamais entrées là, la poussière et le bruit. Un chardonneret, solitaire dans une cage d'osier pendue aux solives et qui jette par intervalle un petit cri aigu, le grincement métallique d'une horloge anime seul le cours silencieux du temps. Elle s'assied sur sa chaise basse où elle tricote les après-dîners. « Madeleine, je vais me marier, tu sais ?» Elle hocha lentement la tête. « À Paris, monsieur Fabien, oui, c'est ce qui fait tant de peine à monsieur. » « Tu verras celle que j'ai choisie, Madeleine. »« Je ne crois pas, monsieur Fabien. »« Si, si, et tu reconnaîtras que c'est mon oncle qui se trompe. »« Je ne l'ai pas vu se tromper souvent. »« Enfin, là n'est pas la question. Mon mariage est résolu, mais je veux y faire consentir mon oncle, comprends-tu, me réconcilier avec lui. » Madeleine remua de nouveau la tête. « Vous ne réussirez pas. »« Oh, Madeleine !» « Non, monsieur Fabien, vous ne réussirez pas. »« Il a donc bien changé. »« Tant que vous ne sauriez le croire, tant que j'ai du mal à m'empêcher de changer moi-même. »« Lui, qui avait si bon appétit, il n'a plus que des caprices. »« J'ai beau lui faire des petits plats, lui acheter des primeurs, il ne s'en soucie pas. »« Il regarde par la fenêtre quand j'entre avec mes surprises par la porte. » Le soir, il en oublie quelquefois de sortir dans le jardin pour rester là, les coudes sur sa serviette dépliée, la tête sur ses poings, pensant à des choses qu'il ne dit pas. Si je veux lui causer de vous, j'ai essayé, allez, monsieur Fabien. Il s'en va tout furieux en me défendant d'ouvrir la bouche à votre sujet. La maison n'est pas gaie, monsieur Fabien. Tout le monde s'aperçoit qu'il a changé. Monsieur Lorinet et sa dame ne mettent plus les pieds ici. « Monsieur Hublette et Monsieur Orlet arrivent pour jouer leur mort avec des airs d'enterrement, croyant faire plaisir à monsieur, jusqu'aux clients qui me disent que monsieur les reçoit comme des chiens et qu'il devrait bien vendre son étude. »« Elle n'est donc pas vendue ?»« Pas encore, mais je suppose que ça ne sera pas long. »« Écoute-moi, Madeleine, tu as toujours été bonne et dévouée pour moi. Je suis sûre que tu m'aimes encore. » « Rends-moi un dernier service. Il faut que tu me loges ici, sans que mon oncle le sache. »« Sans qu'il le sache, monsieur Fabien ?»« Oui, dans la bibliothèque, par exemple. Il n'y vient jamais. »« De là, j'étudierai, j'épierai mon oncle sans qu'il me voie, puisqu'il est si variable d'humeur, et dès qu'une bonne occasion se présentera, je serai prête à en profiter. Un signe de toi, et je descendrai. »« Vrai, monsieur Fabien ?» « Il le faut, Madeleine, il faut que j'aie trouvé le moyen de parler à M. Mouillard avant demain matin 10 heures, car ma fiancée arrive. »« La Parisienne, elle va venir ici ?»« Par le train de 9h06, demain, avec son père. »« Ah, mon Dieu, s'il est possible !»« Pour te voir, Madeleine, pour voir mon oncle, pour conclure la paix. »« Est-ce gentil, cela ?» Gentil, monsieur Fabien, c'est-à-dire que j'en tremble d'avance de tout ce qui va arriver. Je serai tout de même bien contente de la connaître, votre demoiselle, vous savez. Et ce fut convenu. Madeleine ne soufflerait mot à mon oncle de ma présence à Bourges, à quelques pas de lui. Si elle apercevait une éclaircie dans les sombres humeurs de monsieur Mouillard, elle m'en préviendrait. Si j'étais obligée de retarder l'entretien jusqu'au lendemain et de passer la nuit sur le canapé-lit de la bibliothèque, elle m'apporterait des gâteaux, une couverture et votre oreiller de vacances quand vous étiez petit. M'y voici donc dans la grande bibliothèque du premier, attenant au salon, ouvrant par l'autre de ses portes sur le palier, en face de la chambre de M. Mouillard et par ses deux larges fenêtres sur le jardin. Quel bon vieil air de bourgeoisie, depuis le parquet de chêne luisant, gondolé par endroits, jusqu'aux 4 armoires vitrées, surmontées de 4 bustes bronzés, Hérodote, Homère, Socrate, Marmontel. Rien n'a bougé. Les livres sont encore à la même place où je les ai vus depuis 20 ans. Voltaire à côté de Rousseau, le dictionnaire des connaissances utiles et l'histoire ancienne de Rollin, les In 18 fluets et bien reliés. Les In 18 fluets et bien reliés des méditations de Saint-Ignace, coudoyant un énorme in octavo brochet sur l'art vétérinaire. Les flèches de sauvages, dites empoisonnées, qui m'ont causé une si longue terreur, font toujours la queue de paon au-dessus de la cheminée, dont les mêmes coraux blancs fleurissent les deux coins, la musique à manivelle, qui me fut jusqu'à 18 ans interdit de toucher, repose dans le même angle à gauche, et sur le bureau, près du petit buvard où il y a du papier à lettres, se dresse, toujours majestueux, toujours docile à tourner dans ses cercles gradués, le globe terrestre où se trouvent marqués les trois voyages du capitaine Cook, aller et retour. Ah, commandant, que nous avons souvent voyagé ensemble! Quelle belle route nous faisions avec la brise en poupe, à travers les îles aux végétations vierges, qui nous regardaient passer, toutes leurs fleurs étranges ouvertes vers nous, cherchant à nous attirer, à nous endormir de leurs dangereux parfums. Mais nous avions deviné le piège, nous entrevoyons la pointe des saguets luisant dans les hautes herbes, vous commandiez de votre grande voix sonore, et la route s'allongeait devant nous, infinie, et nous courions à de nouvelles terres, à de nouvelles découvertes, jusqu'à cet îlot fatal d'Owaihi, jusqu'à ce point du globe terrestre taché d'une larme, car j'ai pleuré sur vous, mon commandant, à l'âge où les larmes coulent toutes seules, d'un cœur plein d'enchantement. 7 heures à la cathédrale. La porte du jardin se ferme avec bruit, c'est mon oncle qui rentre. Oui, le voilà qui vient par l'allée tournante. Il a son chapeau à la main et baisse la tête. Monsieur Mouillard ne s'arrête pas devant ses greffes, il dépasse le massif de Pétunia sans y avoir jeté ce coup d'œil circulaire que je connais si bien, le coup d'œil du planteur satisfait. Il n'adresse aucune parole d'encouragement à ce canard chinois qui traverse l'allée devant lui. Madeleine a raison, la réconciliation n'est pas mûre. Il faudrait même un grand rayon de soleil pour la mûrir. Si vous étiez ici, Jeanne. Personne n'est venu pendant mon absence. Ça, par exemple, c'est la vieille formule à laquelle mon oncle est resté fidèle. Et j'entends Madeleine, un peu embarrassée, qui répond « Non, personne pour monsieur. » « Il est donc venu quelqu'un pour toi ? Un amoureux, peut-être, ma vieille Madeleine ? Le monde est si bête à présent que tu serais capable de te marier toi aussi et de me laisser. Allons, sers-moi vite à dîner et si le monsieur décoré me demande, tu sais bien ? Le grand maigre ? Oui, tu le feras entrer au salon. Au salon, un monsieur tout seul, pour ça, non. Il a été ciré hier le salon et même que les meubles ne sont pas encore rangés. C'est bon, je le recevrai ici. » Mon oncle entra dans la salle à manger au-dessous de moi et je n'entendis plus rien pendant 20 minutes, si ce n'est l'appel retentissant de sa chope de cristal. Il avait à peine fini de dîner qu'on sonna à la porte de la rue. Quelqu'un demanda à M. Mouillard, le monsieur décoré, je suppose, car Madeleine l'introduisit, et un bruit de chaise m'avertit que mon oncle se levait pour faire honneur à son hôte. Il s'asseyent. La conversation s'engage. Un vague bourdonnement monte à travers le plafond. Quelquefois seulement, un son plus net m'arrive et il me semble alors que je connais cette voix au timbre de flûte. Pure illusion, sans doute, mais qui m'obsède dans le silence de la bibliothèque et le désœuvrement inquiet de mon esprit. Tous les hommes à voix flûtée que j'ai rencontrés à Bourges défilent devant moi. Un grenetier de la place Saint-Jean, le sacristain Rollet, un gros industriel qui faisait rédiger par mon oncle des pétitions en décharge d'impôts. Je cherche fiévreusement, pendant que la lumière décroît à la fenêtre et que les tours de Saint-Étienne perdent par degrés l'auréole flamboyante dont les enveloppe le couchant. Au bout d'une heure, la conversation s'échauffe. Mon oncle tousse, la flûte devient aigre. Je perçois ce fragment de dialogue. « Non, monsieur !»« Si, monsieur !» Et la loi, monsieur, je vous la fais, monsieur, c'est de la tyrannie. Alors, brisons-la, monsieur. Il faut croire qu'en réalité rien ne se brise, car un diminuendo progressif ramène la discussion aux proportions d'un susurrement monotone. Une autre heure se passe, puis une troisième. Quelle est cette visite démesurée ? Un rayon de la lune qui se lève vient de glisser à travers les arbres du jardin. Un gros chat noir traverse la pelouse en secouant ses pattes humides. La nuit lui donne des airs de tigre. Je vois en esprit la silhouette de Madeleine assise, les yeux fixés sur la cendre morte du foyer, égrenant son chapelet. Elle pense comme moi. Il y a bien des années que M. Mouillard ne s'était couché à des heures pareilles. Elle attend, car jamais une autre main que la sienne n'a poussé le verrou de la rue. La maison ne serait pas fermée si elle ne l'était pas par elle. Enfin, la porte de la salle à manger s'ouvre. « Souffrez que je vous éclaire. Attention aux marches de l'escalier. » Puis l'adieu de gens exténués, le grincement de la grosse clé qui tourne dans la serrure, un pas léger qui s'éloigne dehors, le pas lourd de mon oncle qui monte à sa chambre, tout est fini. Comme il monte lentement, mon oncle, la douleur a un poids, ce n'est point une métaphore. Lui, plus nerveux qu'un article du code, il semble avoir peine à se porter. Il traverse le palier, il s'enferme dans sa chambre. Si je sortais de la mienne, quelques pas seulement nous séparent. Sans doute il est bien tard, mais l'émotion qui le tient le disposera peut-être en ma faveur. Qu'est-ce que j'entends ? Des soupirs, des sanglots, il pleure. Arrive que pourra, mon oncle, je cours à vous. J'allais en effet sortir de la bibliothèque quand un vêtement frôla les murs sans qu'aucun bruit de pas l'eût annoncé. En même temps, par-dessous la porte, un petit carré de papier glissa sur le parquet, un message de Madeleine la silencieuse. Je dépliai la feuille et je lus ces mots écrits en diagonale, avec un mépris tout espagnol de l'orthographe française. « N'y allez pas ce soir !»« Puisque tu le conseilles, Madeleine, je n'irai pas. » « Non, je me coucherai là, sur le canapé. Pourtant, ce retard m'est pénible à présent. Il m'est dur de laisser s'écouler cette nuit encore sans m'être réconcilié avec ce pauvre homme, sans l'avoir essayé du moins. Il souffre, il est malheureux au point de pleurer, lui qui n'a pas eu de larmes en temps de rencontre où je ne pouvais retenir les miennes. Je suivrai ton conseil, ma vieille et fidèle amie, car je sais que tu as autant que moi le souci de la paix de cette maison. » Mais je sens que je vais longtemps encore, et inutilement, chercher quel est ce nouveau chagrin et pour quelle part j'y suis.